nous recevons l'agent des stars et la star des agents, le reproducteur de la meilleure série française de ces dernières années, celui qui s'est rendu compte que sur les contrats, il fallait mieux prendre 30% que 10%, le fondateur du formidable festival de cinéma d'Angoulême, ce mini, Dominique Besnard, est notre invité.
Bonjour.
Bonjour Dominique Besnard.
Bonjour Anne.
Alors vous venez nous parler de la série 10% qui cartonne en ce moment sur France 2 ?
Enfin, qui cartonne, elle marche très bien, mais ça n'est pas les chiffres de ma copine José Dayan lorsqu'elle fait Capitaine Marlowe. Hein. Moi, je suis... Voilà. En même temps, c'est une, ce qui est très bien, c'est que ce sont beaucoup les jeunes qui la regardent aussi, les femmes et les jeunes. Et les jeunes, ils regardent la télé sur les replays. Et les replays sont extraordinairement conséquents. Plus d'un million de replays. Donc, voilà.
Ça compte aussi
parce
dans l'audience.
Parce que moi, je suis d'une époque où on rentrait chez soi, on regardait les scènes chéries, devant le poste, mais maintenant c'est fini ça.
Et c'est aussi une série qui marche très très bien sur Netflix, la première série française sur Netflix.
Et à l'étranger aussi. Et là maintenant, je suis allé au Québec et j'ai vu les premières images de la version québécoise qui s'appelle...
10%.
Non. Ça aurait été mieux, cher ami, mais là, ça s'appelle... Enfin, je dis trop rien parce qu'ils ont acheté le remake, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais Les Invisibles, ce n'est pas vraiment un bon titre.
C'est ça, ils l'ont appelé Les Invisibles. Très étonnant.
Moi, je n'étais pas invisible quand j'étais agent.
C'est un peu science-fiction, non ?
Dans les journaux, quand il y avait écrivait aux artistes, vous envoyez des lettres aux artistes ?
J'ai envoyé très vite des lettres à Marlène Jobert parce que je l'adorais. Et à l'époque, dans les années 70, c'était une très très grande star.
Elle vous a répondu ?
Elle ne m'a pas répondu. Non, elle ne m'a pas répondu. Qui répond à part Line Renaud ? Vous répondez-vous à vos courriers ? Line Renaud, elle répond à tout le monde. Hein. Des fois, je la vois, je dis, mais c'est... Non, c'est elle qui signe. Elle fait un travail
de dépouillement.
Et elle aurait vraiment pu faire de la politique. Hein, parce que, et Drucker aussi, il répond à tout le monde. Hein. Mais,
il y en a donc, qui vous ont répondu, Dominique Besnard, quand vous étiez petit garçon ?
Non. Personne. Et Marlène Jobert, que j'ai rencontré après, on est devenus très amis, elle me dit, je me souviens de tes lettres. Mais j'ai dit, tu ne m'as pas répondu à l'époque.
Et ça fait quel effet pour un enfant qui admire de grandes stars d'en devenir l'agent plus tard, quelques années plus tard.
C'est quand même assez beau, parce que moi, je m'ennuyais quand même. Je devrais s'appeler mon livre Casino d'hiver à l'époque, parce que l'hiver, c'était triste. Mais il n'y avait pas c'est les années 70, les week-ends, il n'y avait pas tous les week-ends où les gens avaient des RTT. Donc, Oulgat l'été, ok, Pâques un peu, à partir d'octobre, plus personne. Et donc, moi, je me réfugiais un peu devant la télévision où il n'y avait que deux chaînes en noir et blanc. Et puis, moi, j'aimais pas du tout le sport. Mon frère faisait du sport, mais moi, je lisais. Et moi, en fin de compte, je regardais la télé, je faisais des fiches et je rêvais. Et on avait un grand grenier. Et j'avais fait vraiment, j'étais complètement en me disant, je faisais les filmographies, je savais tout de tous les comédiens de télévision. Christian Barbier, Daniel Vol.
Ça faisait un peu psychopathe, mais qui connaît tous les petits détails.
Non, c'est un peu un caractère de la bruyère, mais parce que je rêvais.
C'était votre passion.
Voilà, ma passion.
Et maintenant, vous vivez votre passion.
Et c'est vrai, ce que je réponds à votre question, pardon. Ouais. Et c'est vrai que j'ai connu Marlène après, et surtout... Claude Lelouch, sa mère était la cliente de mes parents en Oulgat, donc dès que Claude Lelouch venait, je demandais à mon père de monter dans la camionnette pour essayer de le voir en me disant peut-être qu'un jour, et voilà. Et donc ensuite, j'ai vu le tournage d'Un homme et une femme avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant.
Là, vous aviez 12 ans.
Et j'ai vu ça quand même. Et après, j'étais l'agent de Jean-Louis Trintignant et de Anouk Aimée. Mmh.
Et c'est ça, c'est fou comme parcours.
Donc c'est assez marrant, oui. Ouais.
Dominique Besnard, vous avez donc été casting, après agent, et maintenant tout le monde a un agent, même mon coiffeur a un agent, même les agents ont des agents.
Oui, mais les agents, ils sont un peu, maintenant, ils sont connus quand même.
Agent et coach, c'est un métier d'avenir, alors coach d'agent, agent de coach, alors là, c'est...
le Graal. Non, mais aussi parce que cette série, on a eu quand même du mal à le faire, parce que les gens disaient...
Pendant 5 ans, vous êtes baladé avec le projet, personne n'en voulait.
Ben les gens disaient, c'est quoi cette histoire ? En quoi ça intéresse la France profonde, des histoires d'agents qui s'occupent de gens qui n'ont aucun problème, qui sont riches et tout ça ? D'abord, tous les acteurs ne sont pas riches, hein, parce qu'on parle toujours du mot star, mais il y a des acteurs toute leur vie qui font très bien leur métier, qui sont comme des artisans. Et moi aussi, je me suis occupé de beaucoup de ces gens-là. Et surtout, c'était aussi montrer que c'était un peu comme dans la règle du jeu de Renoir. Il y a les aristocrates et puis il y a les gens dans les cuisines. Et les gens dans les cuisines, ils sont souvent très passionnants. Et c'est eux qui font que quelquefois un acteur peut faire un rôle auquel il n'avait pas pensé.
Bien sûr.
C'est pas, parce que le côté de réduire ça à la nounou, moi j'ai peut-être été nounou, mais j'étais aussi un conseiller et quelqu'un qui essayait d'avoir un conseil artistique, un conseil économique. Voilà.
Comment on reconnaît des talents? Parce que vous avez été spécialiste de ça, vous avez détecté plusieurs talents, vous avez pris des gens inconnus et vous avez deviné qu'ils viendraient très connus. Comment? C'est une intuition, c'est un sixième sens.
Je pense que quand je faisais du casting, j'avais des bonnes intuitions, mais parce que j'observe aussi les personnes. Et c'est vrai que moi, ce que je dis, là, je l'ai dit dans ce film, et je suis content de l'avoir dit, quand on va dans un cours de théâtre maintenant, tout le monde joue plutôt bien. C'est un niveau comme ça, un peu uniforme. Moi, quand j'allais dans des cours de théâtre, dans les années 70, il y en avait qui jouaient mal. Et puis, il y en avait qui jouaient... Et en même temps, est-ce que c'est pas ça? Et on revenait 6 mois après, et ils avaient pigé. Et le défaut de quelqu'un qui avait une particularité qui pouvait être gênante en disant il n'est pas dans les normes, eh bien, ça devenait quelqu'un d'impressionnant. Et je trouve que nous, maintenant, voilà...
Peut-être, c'est trop uniforme, maintenant.
Quand vous voyez la télé, quand il y a tellement de feuilletons des feuilletons d'accès, où tu vois les gens, ils jouent bien. Mais en même temps, je me suis dit... Voilà, c'est pas pour ça qu'on devient un grand acteur. Corinne Maziero, quand on la voyait au début, vous avez d'où elle sort celle-là. Et en même temps, c'est sa particularité qui fait qu'elle retient l'attention. Est-ce qu'un Bourvil qui débarquerait maintenant... Est-ce qu'on les prendrait?
Moi, je suis étonnée, quand j'ai vu votre filmographie, Dominique Bessner, vous avez joué dans énormément de films, parce qu'à force de jouer des petites apparitions, des seconds rôles, il y a combien de films, vous avez compté?
On me dit 90, mais il y en a où vraiment, on ferme les yeux, on ne voit pas. Hein.
Quand même, 90 films.
Ouais, mais j'ai fait
un grand film.
Un grand film, quand même. C'est quand même à nos amours de Piala.
Cette scène à table où tout le monde...
Ouais, puis c'est quand même un film qui restera. Du reste, quand je vois on le passe au bac... Il fait partie du programme du bac. Qui aurait pensé que ce film, on pensait qu'il allait s'arrêter au bout de 8 jours, parce que c'était quand même assez folklore le tournage. Et puis là, dernièrement, je suis content d'avoir fait une scène dans le film avec Anneke, avec Jean-Louis Trintignant, à Pienne, où j'ai une scène superbe avec lui de 4 minutes, où j'ai jamais autant peur de ma vie, parce que c'est une scène compliquée, et je suis content de l'avoir fait, voilà. Mais là, je me concentre, mais des fois, j'ai fait des films où je ne suis même pas bon. Hein.
Ah bon ? Ah, vous avez le recul sur vous-même ?
Ah ouais, non, ouais. Je veux dire, c'est vraiment...
Vous seriez pris, d'ailleurs, si vous aviez été un agent ?
Non, mais parce qu'on me demande de faire plaisir, je ne suis pas concentré, il y a des films, je peux vous dire la liste où je suis mauvais. Hein.
Ah ouais ? Ah bon ?
Ouais.
C'est bien cette lucidité.
Ah ben, je suis tout à fait lucide.
Et dans 10%, vous n'avez pas vu de...
Ah ben, je suis dans le sixième épisode.
Ah, le sixième épisode.
Mais là, on a un truc complètement improvisé, parce que je suis effaré de constater comment les gens oublient les grands acteurs. Alors, c'est peut-être mon côté Brialy, je suis Europe numéro 1. Brialy m'a fait aimer, il m'a fait connaître en plus les grands acteurs. J'ai quand même eu la chance de rencontrer Arletty, de rencontrer plein de gens grâce à lui. Et de temps en temps, je suis épaté, ça m'énerve, de constater que des jeunes comédiens dans les cours, ils ne savent même pas qui est Louis Jouvet.
Et vous dites que vous êtes très choqué aussi qu'il y ait peu de monde à l'enterrement de Daniel Darieux. Ouais. Et que quand vous avez fréquenté les candidats de jeunes, vous avez remarqué que beaucoup de gens passaient leur temps dans les cafés et n'avaient pas la curiosité d'aller voir les autres.
Sûr. Et là, on s'est rattrapé, on a fait une très très jolie... une jolie soirée au Sensei autour de Daniel Darieux. Et, bon. Et là, donc dans 10%, je fais mon propre rôle et je suis un peu pété. Et je dis, qui se souvient de Daniel Darieux? Il y a tout un sketch, il y a 3 ponctuations avec moi qui parlent des actrices du passé.
Vous avez aussi fondé le festival d'Angoulême, Dominique Wessner.
Francophone d'Angoulême avec Marie-France Brière, qui est une des journalistes ou des historiques d'Europe numéro 1.
Et Dominique Wessner, votre frère jumeau dit que quand vous avez 70 ans, vous allez encore changer de vie en dirigeant un théâtre. Vous êtes au courant de ça?
J'adorerais ça.
Ouais, c'est vrai?
Mais enfin oui, c'est que dans quelques années encore, mais j'adorerais avoir un théâtre. Parce que moi, je vais tout le temps au théâtre. J'adore le théâtre. Et du reste, c'est là aussi. Alors vous allez me parler comme un emmerdeur, mais les casting directeurs, je ne vois pas beaucoup au théâtre. Hein.
Ouais. Mmh.
C'est ça aussi le drame.
Ouais, c'est vrai.
C'est que nous, on allait au théâtre et que les metteurs en scène venaient au théâtre et les rencontraient les acteurs. Maintenant, tout se fait sur Internet. Et puis, on pense qu'on connaît un acteur parce qu'il a dit 4 phrases dans un essai. Généralement, fait chez lui, dans des mauvaises conditions. Moi, je suis contre ça.
Ouais, y a
et là, dans mes productions... Je peux vous dire qu'ils se déplacent au théâtre, où les castings, je leur demande qu'on fasse des essais bien, pas 100 personnes pour leur donner la réplique.
Un vrai essai.
Ouais, oui.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des comédiens incroyables au théâtre et qui ont du mal à aller au cinéma alors qu'ils sont bien meilleurs bien que sûr. Beaucoup qu'on voit. C'est dommage.
Ben H a des choses à vous dire, Dominique Wessner.
Oui, je vous avais prévenu, Anne, avant l'émission. Depuis aujourd'hui, mon nouveau nom, c'est Ben H, comédien formé au conservatoire, 1m75, recherche rôle au cinéma. Hein, c'est un nom un peu long, je vous le concède, mais qui peut servir lors de certaines rencontres. Dominique Wessner, bonjour.
Bonjour.
Comme tout jeune comédien, je suis forcément assez impressionné devant vous et c'est normal, vous êtes un homme influent, directeur de casting, agent culte, producteur à succès. D'habitude, les invités ont peur de ce genre de portrait. Avec vous, c'est moi, le portraitiste, qui vient me sentir jugé pendant 3 minutes. D'autant qu'on ne va pas se mentir ni mentir à nos auditeurs, je le sais. En réalité, vous n'êtes pas ici pour assurer la promotion de votre série 10%, qui fonctionne très très bien depuis 3 saisons, mais pour auditionner secrètement et peut-être sans le savoir vous-même le futur jeune premier du cinéma français en la personne de moi-même. Là, vous allez me dire que vous n'êtes plus agent, que désormais vous êtes un producteur. Et c'est là que moi je vous réponds, bah c'est tant mieux. Hein, un agent, ça te cherche des rôles. Le producteur, il te les trouve directement. Trouver un rôle, c'est comme chercher l'amour. Hein, un agent, finalement, c'est comme Tinder. Et pour l'instant, bah pour moi, ça marche mieux sur Tinder. Mais ce midi, Dominique, comme je disais à Clara Morgan la semaine dernière, un coup de foudre entre nous est si vite arrivé. Et tout comme avec Clara Morgan, avec vous, j'ai envie de me faire un film. Pas le même, si ça peut vous rassurer. Hein. Ça s'appelle Le producteur et le comédien. Je vous le pitch. Lors d'une interview à la radio, le producteur flash sur le jeune chroniqueur drôlatique. Il lui trouve le charme de Laetitia Casta, la sensibilité de Richard Anconina, la chevelure de Jean-Hugues Anglade, le prépuce d'Yvan Attal et les mensurations physiques de Nathalie Baye. Il lui manque certes le charisme de Cantona, les yeux d'Adjani et la classe de Jeanne Moreau, mais sous ce physique chétif, mais pas dégueu, le producteur décèle un potentiel, une étoile dans le regard. Il y a du Belmondo, du Delon, du Dejardin dans ce gamin.
Ça va les
filles. Se dit fébrile en répondant à l'interview d'une présentatrice qui serait jouée par Anne Romanoff. Par exemple, dans ce film, le producteur mènerait le comédien au sommet en lui offrant le rôle taillé sur mesure qui ferait résonner cette phrase un jour. Et le César du meilleur acteur est attribué à Ben H, comédien formé au conservatoire à 1m75, recherche rôle au cinéma. Et je réalise, Dominique Wessner, que je suis au bas mot le 12 000e comédien qui se fait ce film en vous rencontrant. C'est comme ça, vous êtes Dominique Wessner. Vous êtes une sorte de faiseur de roi, un réalisateur d'histoire. D'abord, ces acteurs et ces actrices à qui vous avez permis d'écrire la leur pour désormais raconter les vôtres d'histoire. César au bout ou pas, j'étais ravi de croiser votre chemin, monsieur Wessner.
Merci.
Ça arrive souvent, Dominique Wessner, que des acteurs pensent que vous pouvez changer leur destinée.
Ouais, ça, c'est un peu... C'est malheureusement pas si simple que ça. Hein. Ouais. Non, on peut, quand on est agent, on peut aider, mais à un moment donné, on n'est pas non plus...
Des magiciens.
On n'est pas un démiurge, voilà. Ouais. Ça se dit,
bon, ben tu vas encore traverser la rue, toi, Ben.
Je sens que c'est pas gagné.
Ouais. Non, mais il y a quelqu'un à qui vous faites penser plutôt.
Ah. Vous
pourriez être le frère de Pierre Ninet.
Ah oui, alors là, c'est un beau compliment.
Je prends.
Ouais, ouais. Il y a un côté Pierre Ninet.
On m'a dit un jour le fils de Patrick Devers.
Oh, ouais. Ça va aller, oui.
Non, mais Pierre Ninet, beaucoup.
Pierre Ninet, ouais.
Bah, tu vois, bon. Si un jour il y a un rôle de petit frère de Pierre Ninet, voilà.
Ah bah je prends, si on m'entend.
Faudrait pas qu'il vous appelle pour sa doublure lumière.
Alors, Dominique Wessner, vous êtes trompé parce que vous avez refusé parfois des gens qui avaient du talent, mais est-ce que parfois vous avez engagé des gens qui n'avaient pas de talent?
Oui, bien sûr. Oui.
Ah, ben H, t'as ta chance finalement.
Non, ça... ben, bien sûr. Et puis, vous savez, un acteur, c'est un être humain. Hein, donc, il y a des moments dans sa vie, il peut être mieux. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic. Et puis, à un moment donné, il y a une rencontre avec un personnage. Mmh. C'est très compliqué. Vous savez, c'est un mystère. Un acteur, c'est un mystère. Il n'y a aucune loi pour dire... quelquefois, moi, quand j'allais dans les cours, les vedettes de cours... qui étaient là, qu'on regardait, quelquefois ils n'ont rien fait. Et puis le mauvais petit canard, ou la fille qui est mal dans sa peau, à un moment donné.
Moi. Léa Landau a des choses à vous dire, Dominique Besnard.
Oui, Dominique Besnard, bon, avant 10%, ou même avant d'endosser la casquette de producteur de films, vous étiez, on l'a dit, essentiellement connu pour être l'agent de très grandes stars. Vous avez eu du pif, comme on dit, pour beaucoup de comédiens et comédiennes devenus de grands acteurs. Et comme autour de cette table, nous sommes tous comédiens, on ne pouvait pas vous laisser partir sans savoir si Dominique Besnard aurait pu nous recruter. Alors, chacun ira de sa célèbre réplique de film français devenu culte, avec des intentions différentes, et vous nous donnerez votre verdict, Dominique Besnard. On commence par Ben H, donc 32 ans, mais non, qui d'après son physique...
Il fait moins.
Voilà, d'après son physique, il pourrait faire des rôles de 15 ans à 15 ans et demi. Ouais, 30 ans, excuse-moi. Alors, comme Ben H est aussi un séducteur, vous avez pu vous en rendre compte, je lui ai attribué la célèbre réplique de Jean Gabin, qui s'adresse à Michel Morgan dans le film Quai des Brumes de Marcel Carné. Donc, t'as de beaux yeux, tu sais, fais-la nous normale et après je te donne des intentions.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Voilà, maintenant fais-le plus baratineur, beau parleur.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Fais le plus beauf.
Eh, t'as de beaux yeux, tu sais.
et un peu moqueur.
T'as de beaux yeux, tu sais.
C'est bien.
C'est pas mal.
Ça passe. Mmh.
Bon, d'accord. On continue avec Jean-Philippe Busini.
Moi, j'ai rien demandé.
Vous allez voir, le jour et la nuit.
Voilà. J'ai pas envie de me faire recaler d'un casting où je voulais pas venir quand même.
Et Jean-Philippe Busini, qui déjà au naturel joue une intention très particulière, bien à lui. Alors, vous allez le voir jouer la réplique de Jean-Pierre Darroussin dans Marius et Jeannette, qui est sortie en 97. Une réplique qui va plaire à notre public.
Les vieux, faudrait les tuer dès la naissance. Bim. Oh alors, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Alors vas-y, plus sadique, fais-le plus sadique.
Les vieux, faudrait les tuer dès la naissance.
Ouais, fais-le moins énervé.
Les vieux, faudrait les tuer dès la naissance, merde.
Et...
Oh.
Et fais-le un peu plus...
Ah, je suis pas encore descendu du personnage.
Fais-le plus sournois, plus fourbe.
Mmh. Les vieux, faudrait les tuer dès la naissance.
Et qu'il le fasse Actor Studio.
Ah.
Oui, je sais pas ce que ça veut dire.
Bon, recalé.
Anne. Oh, déjà
non. Il est un personnage, Jean-Philippe Busini. Il pourrait faire l'abruti ou...
Merci, Anne. J'ai pas besoin qu'on me représente, Anne. C'est vrai.
Alors, Anne, je vous ai attribué la réplique de Jeanne Moreau dans Jules et Jim. Normal, Anne.
Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends. J'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.
Ok, fais-le sensuel.
Oh, ça, c'est faire, ça, vous allez voir.
Attendez, je ferme les yeux.
Attends. Oh là là, attends, j'enlève la chemise, là.
Tu m'as dit je t'aime,
oh oui.
Je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.
Ouais. Ah, fais-le moi, campagnarde.
Bah tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.
Fais-la moi, snob.
Bah tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.
Wow. Et en anglais?
Ah, c'est là que ça s'arrête.
You told me I love you and say wait and I was to say take me and you say go.
Wow. Tu l'as travaillé ou quoi?
Et Léa, vous alors?
Alors bah moi je me suis attribué la réplique de Sacha Guitry tirée de son film Faisons un rêve. Les yeux dans les yeux, je vous le demande et vous supplie de me répondre. Voulez-vous du beurre dans votre pain?
Et alors en racaille ça donne quoi?
Ah, les yeux dans les yeux, je vous demande, s'il te plaît, vas-y, tu peux me répondre, tu veux du père sur toi?
Et en vieille dame?
Les yeux dans les yeux, je vous le demande, je vous supplie de me répondre, voulez-vous du beurre dans votre pain?
Exaspérée?
Ah, les yeux dans les yeux, je vous demande, là, et vous supplie de me répondre, est-ce que vous voulez du beurre sur votre pain?
Voilà. Oh là là, quand je pense qu'elle a dû bosser toute la nuit pour c'est ça.
Elle est passionnée de foot. Elle a joué dans l'équipe féminine du PSG. On l'a vu au cinéma dans Touchous, Pataya. On la voit à la télé dans Quotidien. On l'a su sur le net. On peut l'applaudir sur scène du Théâtre du Marais dans son seul en scène Fat and Furious. Elle dit « Je suis Clara Morgan, coincée dans le corps de Gérard Depardieu. » Accueillons Mela Bédia. Ouais. Bonjour Mela Bédia.
Bonjour Anne.
Ça cartonne pour vous?
Ouais, jusqu'à quand?
Je sais pas.
Mais la Bédia, vous êtes lancée dans l'humour jeune, finalement.
Oui, à cause et grâce à Diams, donc c'est ouais. rigolo.
Parce que vous avez eu le bac à 16 ans, vous ouais. étiez un peu sourdouée, la sourdouée de la famille.
J'ai triché.
Non. Vous avez mention au bac,
oui, une mention, bien. Mais elle, ça veut plus rien dire, maintenant.
Bah si, quand même.
Bah, c'est les gens de Nuit Debout, ils fument des roulés, ils vont manifester. C'est pas vraiment des étudiants, les
L. Moi, quand même, je n'ai eu que mention assez bien, je crois. J'ai même pas eu...
Ah ouais, mais elle?
Ouais. Enfin, à mon époque, c'était A.
Bah, moi, j'ai pas eu de mention du tout. Hein. J'ai que elle aussi.
Et donc, toute votre famille espérait que vous alliez faire de grandes études?
Bah, surtout Ramzy. J'ai un grand frère, Ramzy, Eric et Ramzy, de H de la Tour Montparnasse Infernale.
C'est placé.
C'est mon grand frère, malheureusement. J'ai pas pu choisir. Et du coup.
Vous êtes une famille, vous êtes combien d'enfants? 8?
On est on est une demi-douzaine. On est comme les escargots. Je veux dire, il y a plus, ça se compte plus. Vous chez les rebeux, vraiment, à partir de 5, on compte plus. C'est la cave qui sait. Voilà.
Vraiment. Donc vous êtes la petite dernière?
Oui, c'est ça, la chouchoute.
Et donc lui, il espérait que vous alliez faire
Lui, il était sur Sciences Po, Cannes, Hippocagne, HEC.
Et vous, vous partez en tournée avec Diams, qui est une amie de la famille. Elle vous dit, je te prends comme habilleuse et styliste.
Et du coup, je l'ai voilée.
Et
c'est à cause de moi, voilà, je suis désolée.
Et donc, suite à ça, elle vous dit, tu vas faire ma première partie,
fait une surprise.
Drôle.
J'étais en train de manger une salade de lentilles au catering dégueulasse à Angers. Et elle me dit, bah, tu vas faire les premières parties. Et je lui dis, mais je sais pas faire. Elle me dit, si, tu vas voir, t'es rigolote. Et elle m'a lancé vraiment.
Et vous avez vomi?
J'ai vomi.
Pas devant les gens, avant.
Avant, mais vous savez, le vrai moment où tu marches pour aller sur scène, ouais. Bah, toute cette déambulation, j'ai vomi.
Ouais.
Sympa.
Et après, vous êtes montée, vous avez raconté quoi pour ce premier truc?
Mais c'était de l'impro. Alors, je détendais un peu l'atmosphère parce qu'il y avait la polémique sur le voile. Du coup, bon, bah, il y avait des journalistes un peu malveillants.
Ouais.
Du coup, je l'ai charrié un peu sur le voile, sur le fait que ça nous arrangeait qu'elle se voile vu sa gueule. Enfin, voilà. J'ai essayé de trouver, j'avais pas de vanne encore. Et après, on a écrit un petit sketch, mais au tout début, c'était que de l'impro. Et
ça a marché tout de suite.
Ouais, malheureusement. Je sais pas quoi vous dire, mais oui, je crois que ça a marché un peu au début.
Et au début, votre frère aîné, Ramzy Bédia, a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, ouais. Gad Elmaleh lui a demandé votre téléphone c'est pour vrai. Faire sa première c'est partie, vrai. Il a dit non.
Et ouais, il avait pris Charlotte Gabrys. Qu'est-ce que j'étais vénère. Non, mais c'est vrai, au début, j'ai eu une mini-cote. J'étais ouais. la seule grosse, vous savez, une humoriste grosse, vierge et tout. Bon, bah. Non, et ouais, j'ai encore l'hymen. Eh ouais.
Non, mais vous êtes vraiment vierge ou c'est un truc que vous racontez?
Non, je suis vierge.
Sérieux?
Ouais.
Non.
J'attends le bon.
Oh.
Je vais passer à la 400.
Et bien, voici Benache.
Benache.
On se connaît très bien avec Mela.
Ah, c'est dommage de commencer avec Benache.
Elle m'a déjà dit non.
En même temps, il a de l'expérience.
Ouais, mais là, c'est trop. Non, mais trop, là. Non.
C'est vrai.
Alors, Mela Bédia, Ramzy vous empêche de faire de l'humour, votre grand frère. Et quand vous êtes folle de foot, ouais. vous êtes repérée pour aller jouer à Cleveland. Et là, votre mère vous empêche de partir.
Oui. Bah oui, parce qu'elle voulait pas voir sa petite fille. Elle voulait continuer de m'engraisser. Elle voulait pas que je parte à Cleveland, enfin, outre-Atlantique, développer une carrière de foot, enfin, c'était bizarre même pour une fille chez des rebeux, ça faisait un peu chelou hein. Surtout que je suis vraiment pas lesbienne donc c'était relou. mais en vrai ouais, ça m'a un peu brisé mes rêves, c'est comme vrai. Ces mecs de cité quand ils se disent oh, j'aurais pu être Zidane mais hop la rotule elle a lâché. Tout ce truc là et moi pareil.
Mais ça a été quand même une passion frénétique le foot.
Ah ouais,
vous
le
connaissez
foot, ouais.
toutes les équipes
à l'époque, maintenant j'ai un peu lâché bah, pour pouvoir me faire dévierger il faut que je me féminise du coup. Je vous cache pas que maintenant je m'intéresse à d'autres choses, j'achète le Marie-Claire, le L et tout mais
Vous apprenez des trucs dans Marie-Claire L mais
rien du tout.
Non.
À part qu'il faut maigrir, je crois. C'est le seul truc que j'ai appris.
Et là, vous avez le rôle principal dans un film qui va
ouais,
sortir.
Mais c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour ça.
Mais quand
sinon,
même.
Personne m'aurait donné ça.
Comment il s'appelle ce film?
Il s'appelle Forte.
Forte, donc c'est l'histoire de...
De moi. Ouais. Qui galère un peu avec les garçons, qui est un peu à la ramasse. Qui a un meilleur ami et une meilleure amie aussi perdue que moi. Et un jour, il se passe...
Ils sont
un...
joués par qui?
Alison Wheeler.
Ouais.
Et Bastien Huguetto.
D'accord.
Voilà. Et un jour, je choisis un extrême pour me féminiser. Je me lance dans le pole dance pour serrer des mecs et pour atteindre ma féminité, ce qui va être un échec cuisant. Et du coup, je fais la rencontre de Valérie Lemercier.
Qui est prof de pole dance.
Qui est prof de pole dance, qui a fait la prison.
Ouais.
Et du coup, voilà, va être un peu mon mentor de la féminité dans le film. Et après, voilà.
Vous avez dû donc faire des vrais cours de pole dance pour
bien
ça
sûr. J'ai perdu 22 kilos.
C'est vrai?
Oui. J'ai l'impression d'être Amel Bent quand elle est devenue Jerry Witwatchers aussi, ça y est.
Et du coup, vous n'aviez pas peur de perdre un petit peu, entre guillemets, votre fonds de commerce parce que votre.
Bah, j'avais de la marge, hein, je veux dire. C'est-à-dire que là, ce qui me fait chier, c'est que j'ai perdu 22 kilos et je suis encore grosse. C'est chiant. Quoi.
Juste en faisant du pole dance, on perd 22 kilos?
Ouais, après, c'était 4 fois par semaine. Et puis moi, avant, je vous dis la vérité, la pole dance, déjà, je vous apprends un truc. Je vous en prie. Non, la pole dance, en fait, moi, je pensais que c'était un truc de, pardon, de salope.
Ouais.
Bah, franchement, j'étais dans le jugement. Je pensais que c'était des trucs de stripteaseuse avec des enfants illégitimes, tout ça. Et pas du tout. J'ai rencontré des filles qui sont avocates. Mais oui, mais en fait, c'est super, la pole dance. Et du coup, c'est très, très physique. C'est
et
que
et du coup, maintenant, quand vous serez avec un homme en tête-à-tête, vous pourrez lui faire...
Je peux vous dire que j'ai déjà une barre à la maison. C'est tout ce que je peux vous dire.
Vous dites que vous avez essayé d'écrire avec d'autres gens et finalement vous êtes aperçu qu'il n'y a que vous qui pouvez écrire pour vous, c'est ça ?
Bah non, en fait, je me dis, quitte à écrire une petite merde, autant que ce soit moi. Parce qu'avec les autres gens, j'arrivais pas à jouer leur van et j'ai essayé, hein. Franchement, je sais pas vous, je sais que vous êtes tous humoristes. D'ailleurs, on a presque 507 heures à nous tous. Hein, là. On est assez d'être intermittents hein, quand je vous regarde.
Et alors, moi, j'ai une question, Mireille Dumas.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je vous connais et c'est vrai que vous dénigrez beaucoup. Vous faites toujours des blagues, oui, je suis un peu nulle, je suis un peu ci. Alors que vous avez quand même conscience que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous avez quand même une magie à l'intérieur de vous.
Déjà, je m'en.
J'avais prévu que c'était une question, Mireille Dumas. Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que quand même au fond de vous.
Non, en fait, il y a ce truc-là. Moi, je préfère me vanner avant qu'on me vanne. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai écrit la moitié d'un spectacle où je me dénigre. Mais après, dans l'autre moitié, il y a plein d'autres choses où c'est pas sur moi.
Peut-être
quoi.
Après, vous aurez même plus besoin de vous dénigrer.
Peut-être je vais aller me faire liposucer une bonne fois pour toutes. Hein, j'attends de voir si ça rapporte un peu.
Mais on peut être ronde et bien dans sa peau quand même.
Ouais, c'est compliqué quand même. Toutes ces meufs-là, je les adore, mais c'est compliqué quand même. Quand t'arrives à Aqua Boulevard, t'es vraiment grosse quoi. Je veux dire. Non, mais qu'on se le dise, tu ressembles à la baleine toboggan donc.
En tout cas, un mec doit rigoler avec vous.
Ah, on rigole bien.
Ouais.
On couche pas, mais on rigole bien. Mais c'est déjà ça.
Jérémy Lorca.
Jérémy, moi je l'adore. Je vous adore tous, mais Jérémy Lorca, je pense que je suis à ça de le remettre sur le droit chemin.
Mais là, ça pourrait faire un truc quand même.
Franchement, si tu me dévierges et que tu te convertis à l'islam, j'ai tout gagné.
Là, si ça va faire beaucoup pour lui.
Tu vas m'hétérosexualiser, pardon. Alors,
vous voulez nous parler de la Fashion Week,
oui,
Jérémy
Lorca. Déjà, cette semaine sur Facebook et sur Instagram, il y a le 10 Years Challenge. Le but, c'est de publier une photo de nous il y a 10 ans et une photo de nous aujourd'hui en 2019. Parce que tout le monde me le demande, il y a 10 ans, je jouais dans une pièce que j'avais écrite qui s'appelait En attendant la gloire. Et 10 ans plus tard, je l'attends toujours. C'est pathétique. Alors, il y a 10 ans, à l'époque, c'était déjà la Fashion Week. Parce que oui, cette semaine, c'est la fâche, comme disent les Parisiens. La semaine de la mode, je traduis aux mamies du public. Cette semaine, ils sont partout, les mannequins, ils ont envahi la ville. On les voit dans le métro, dans le bus et même dans les restos. Hier, j'ai dîné avec des amis et il y avait un mannequin de Milan qui était là pour 4 jours. Moi, j'avais commandé une mozzarella en entrée et après un cheeseburger et des frites à la truffe, à la base. Lui, il a commandé des courgettes râpées qui étaient dans les entrées, qu'il a demandé en plat principal. C'était humiliant. Il a fait ça pour me provoquer. J'ai failli en venir aux mains. Si j'avais pas la radio, j'étais prêt à faire 24 heures de garde à vue. Non, mais c'était quoi son problème? Il avait l'air en carence. C'est quoi ce diktat de la maigreur? Chez les hommes, maintenant, il faut être hyper mince pour défiler. C'est fini les beaux mecs, on veut des gars qui ont l'air de pas s'être lavé depuis 3 jours et qui ont un corps d'adolescent. Ben H, tu cartonnerais. D'ailleurs, en parlant de maigreur, j'en profite pour passer un petit message personnel. Parce que pendant les vacances de Noël, j'ai flirtouillé 3 jours avec quelqu'un et au bout du 3e jour, il m'a dit que j'étais gros. Alors, si tu m'écoutes, ok, je pèse 82 kilos pour 1m80, mais moi au moins, si je veux, je perds quelques kilos, je fais régime. Alors que toi, tu t'appelles Kevin et tu pourras jamais changer ça. Cher. Alors, on dit que la mode c'est cyclique, que se comporter il y a 10 ans va forcément revenir à la mode. Moi j'aimerais retrouver mes illusions sur le grand amour, l'amitié et la planète. Parce que oui, quand on voit la photo d'un pingouin sur la banquise en 2009 et à côté la photo d'un pingouin aujourd'hui au milieu de l'eau perché sur un mini bloc de glace, on se dit que s'il y a un truc qui n'est pas fashion du tout, c'est le réchauffement climatique. Et ça pour le coup, j'ai peur de voir ce que ça donnera dans 10 ans. Merci beaucoup.
Il est engagé hein.
Ah ouais hein.
Et alors,
il faut s'engager.
Mais la Bédia, votre spectacle, vous le jouez donc jusqu'au mois de mars. Après, vous allez faire une grande salle.
Oui.
Où ça?
Je pense à tout de suite Zénith.
Non, mais sérieusement, oui.
Non, je sais pas. Normalement, on change de salle.
Ouais, ah. Parce que c'est plein.
Oui, là, c'est plein.
Le bouche à oreille est excellent.
Le bouche à oreille est excellent.
Les critiques sur Billet Réduc sont très bonnes.
Très bonnes. Tout est très bien, franchement.
Alors, dites-le.
Je le dis, ça cartonne et je vous emmerde.
Quand on voit un concentré de talent, de sympathie, de chaleur humaine, et quand même, soyez un peu moins modeste.
Alors je serai un peu moins
modeste.
Parce
que vous savez que quand vous dites du mal de vous, l'univers l'entend et après, c'est pas bon pour le karma.
T'en dirais moins.
Non, c'est bon. Mais en fait, c'est une secte.
Psychanalyse.
C'est d'accord.
Non, mais c'est vrai ce que je dis.
D'accord, alors je vais commencer à m'envoyer des bonnes ondes.
Oui.
De toute façon, elle va me taper, je le sens.
Non, mais alors dites quelque chose de positif sur vous.
Je suis très généreuse.
Ouais.
Voilà.
C'est bien. Mais pourquoi vous avez l'air de douter quand vous le dites? Je suis une fille formidable.
Je suis une fille formidable.
Oui.
J'ai l'impression que c'est une thérapie. Bonjour, je m'appelle Mélard. Bonjour, Mélard.
Je suis une fille formidable.
Je suis une fille formidable et j'ai des atouts. D'ailleurs, si j'appuie deux fois sur mon sein, je peux faire sortir des churros.
Merci d'être passé
nous voir. Merci beaucoup, merci à vous.
Notre invité qui est le troisième but du 3-0 face au Brésil lors de la Coupe du Monde de 98. Star du football quand Mbappé n'était même pas encore né. Il a fait les beaux jours de Monaco et de Chelsea. Son franc-parler légendaire, sa légendaire queue de cheval font aujourd'hui de lui un consultant en football très demandé. Mais aujourd'hui, il vient nous parler de son polar footballistique Dernier Tac, Meurtre à l'OM, Une femme flic enquête aux éditions du Seuil. Emmanuel Petit avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel Petit.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Alors Emmanuel Petit, on vous a connu sur un terrain de foot. Aujourd'hui, vous publiez un polar. Qu'avez-vous envie de dire aux mauvaises langues qui disent que les footballeurs ne sont pas des intellectuels, qu'il faut être calé en géométrie de l'espace pour être capable de marquer contre le Brésil en finale ?
Et ils ont raison.
Que vous aimeriez bien voir BHL rassembler 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées ? Qu'un footballeur sait très bien servir de sa tête. La preuve, il peut même marquer des buts avec.
On n'est plus, on va dire, on est plus doué pour manier les chiffres que les lettres. C'est clair.
Ouais.
Mais bon, je pense qu'on ne va pas encore lutter contre les clichés.
Ça hein, vous énerve, ça, quand on dit
que
le football...
Non, pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai...
À un moment, ça vous énervait.
Oui, parce que j'ai trouvé que c'était tout souvent réducteur. Il y a beaucoup de sportifs qui sont très diplômés au niveau universitaire. Donc, on ne va pas retomber dans ce débat-là. Donc, vous savez, c'était des étiquettes qui nous collent à la peau depuis tellement de temps et que ça ne changera jamais.
Maintenant, ça ne vous fait plus rien.
Non.
Et Franck Ribéry, donc, c'est un littéraire incompris.
Vous voyez, vous voyez,
ouais, il le cherche un peu aussi. Voilà.
Ah, Emmanuel Petit, vous avez écrit ce livre avec un co-auteur pour vous, la littérature.
Gilles
Del Palpas. Pour vous, la littérature, c'est aussi un sport d'équipe ?
Oui, ça peut, oui.
Et il fallait quelqu'un qui vous fasse la passe décisive, il vous a coaché ?
Disons que je n'ai pas les compétences du monde du polar et je n'ai.
Vous aviez les idées, mais vous ne saviez pas
ça
comment.
Ça fait longtemps que, que je le gardais dans le coin de ma tête. Et comme on a très très bien accroché tous les deux.
Lui, il est Marseillais.
Exactement. Ouais. Et je me suis dit, banco, parce que lui, il a tout cet univers du polar, tout ce qui est séquentiel.
Lui, c'est un photographe d'origine grecque et écrivain. Voilà. Gilles Del Palpas, en fait, c'est Nikos Aliagas.
Je l'ai vu samedi au salon du livre, Nikos, donc je le salue.
Emmanuel Petit, c'est un polar qui se passe dans le milieu du football. Oui. L'entraîneur de l'OM est retrouvé mort.
Oui.
Bon, du coup, on connaît la fin, c'est les supporters qui l'ont tué à force de perdre.
Non. C'est allusion au PSG.
C'est le fruit d'un fantasme que vous avez eu un jour, un meurtre à Marseille. C'est vraiment un fantasme.
Non, mais non. Marseille, parce que Gilles est né à Marseille, parce que Marseille, pour moi, c'est le club, à l'époque où j'étais joué en France,
c'est
le club le plus populaire. C'est une ville qui vit et respire au rythme des victoires et des défaites de son club.
Ou alors vous n'aimez pas Rudy Garcia.
Non, pas du tout. Et malgré le fait que pendant longtemps, j'ai eu maille à partir aussi avec ce qui se passait à l'OM, je n'ai rien contre l'Olympique de Marseille. Je leur souhaite bonne chance et que du succès à l'avenir. Mais en plus, il y avait un contraste aussi social saisissant. Dans le livre, c'est le premier d'une trilogie d'ailleurs. Je voulais mettre aussi à la fois en évidence que le foot était aussi un ascenseur social pour beaucoup de gens. Donc il y a un contraste social entre les quartiers nord et aussi les quartiers UP.
Ce roman Dernier Tacle est le premier d'une trilogie.
Mm-hmm.
Comme c'est la force est avec vous, quoi. C'est Star Wars.
Il n'y aura pas de lien entre les... Simplement, il y a trois personnages qui survivront.
Reviendront.
Alors oui, il y a trois cœurs d'histoire.
Le deuxième le roman s'inspira de la Coupe du Monde de 90.
C'est ça.
Vous annoncez déjà que vous allez inventer une histoire où dans chaque ville où les Bleus ont joué cette année-là, il y aura un mort.
Dans chaque stade.
Incroyable.
Chaque victime sera un journaliste sportif.
Non,
parce qu'en 98, vous avez dû avoir envie d'en éliminer quelques-uns, quand même.
Oui, mais encore une fois, ça fait partie du jeu.
Mais d'ailleurs, vous utilisez les vrais noms des joueurs dans votre livre.
Oui, et ceux même qui... moi, oui.
Ouais, ouais. Mmh. Et ceux qui meurent, non, c'est des personnages
fictifs.
Non,
mais je rassure mes anciens coéquipiers, parce que dès que je sors un bouquin, il y en a beaucoup qui flippent. Donc,
Ils ont des choses à cacher.
Et pourquoi
je rassure. C'est une fiction, donc et ça aussi, justement, ça... Non seulement c'était un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais en plus, contrairement aux anciens livres, je n'avais pas de cadre juridique à respecter.
Vous pouvez dire
fiction.
Ce que vous voulez.
Exactement.
Et là, ça permet une liberté
avant,
totale.
Avant, à chaque fois, j'avais toujours les responsables
avocats,
juridiques qui m'avaient là, ça, on ne peut pas le dire, ça, on va avoir des poursuites, c'est de la diffamation. Je n'ai pas le sentiment
et
de faire des choses mal.
C'est pas de la diffamation ou c'est la vérité, en fait ?
Oui, mais aujourd'hui, la vérité n'est pas bonne à dire. Elle n'a jamais été bonne à dire, la vérité. Mmh. D'ailleurs, on me l'a souvent répété, ça. J'ai bientôt 50 ans, on continue à me le dire. La vérité n'est pas bonne à dire. Bah, on n'a qu'à vivre dans le mensonge continuellement. Regardez dans le monde dans lequel on vit, ça vous convient, vous?
Par contre, vous aviez un bon ami dans l'équipe de France en 98, c'était Robert Pirès. C'était votre pote, lui, vous
Robert, Tutu, Pat Vieira, Fabien Barthez.
Avec qui vous fumiez dans exactement. Les vestiaires. Ouais.
Après la finale.
Ouais, après la finale. Mmh. Vous fumez toujours?
Toujours. Je fume encore plus maintenant.
Mais vous fumez combien de cigarettes?
Bah, j'étais passé à 10, maintenant je suis un paquet par jour.
Ah non, on va vous donner des adresses.
On peut plus rien faire, on a plus plaisir, on peut plus manger, on peut plus boire, plus fumer, on peut plus baiser, on peut plus rien faire en fait.
Si boire, manger, baiser, on peut, mais fumer, non.
On peut plus rien faire.
On va vous donner des adresses d'hypnotiseurs pour arrêter de fumer.
Ça a l'air de beaucoup de
branches. On est très dans les médecines parallèles.
Oui, on est très parallèles.
Déprimé là.
Bon, allez, on va s'en griller.
On va vous prendre en main, Emmanuel Petit. Alors, Emmanuel Petit, vous avez été petit. Emmanuel Petit, petit. On n'a jamais dû vous le faire.
Non.
Vous mesurez combien là, maintenant, Emmanuel Petit ?
1m87.
Ah ouais, c'est bien.
Impressionnant.
Vous rêviez d'être menuisier. Un menuisier, oui. Quand on est petit, c'est du modélisme ?
Non, bah, ouais. J'étais très doué avec mes mains.
Lui dites pas ça.
Non, elle en peut plus là déjà.
Choisissez tous vos mots, Emmanuel.
Oui, il faut faire attention à tout maintenant. Non, je voulais absolument devenir menuisier. J'adorais travailler le bois parce que je trouve que c'est un matériau noble et qui a une histoire à raconter. Et j'étais passionné également de cuisine. Je le suis toujours. Malheureusement, mes mains n'ont jamais eu le même talent que mes pieds.
Alors vous dites quelqu'un qui a été très important dans votre vie, c'est Arsène Wenger, c'est comme un deuxième papa. Mmh. Et vous dites à un moment, il vous teste dans un match, il vous fait venir dans son bureau et il vous dit « Emmanuel, tu ne sors pas assez ».
Oui. C'était le lendemain de mon premier match en professionnel.
Ça, c'est incroyable qu'on vous dise ça.
Il y avait une hécatombe dans l'équipe première. Moi, j'étais au centre de formation et ça fait un petit moment qu'il me suivait. Il m'a projeté comme ça, très rapidement dans le monde professionnel. Et j'ai joué mon premier match contre le FC Sochaux à domicile au Stade Louis II. Et j'étais au marquage de Stéphane Paille, qui était l'avançant de l'équipe de France à l'époque. Paix à son âme, puisqu'il est décédé depuis. Ouais. À l'époque, j'étais assez taciturne, très introverti. J'avais du mal à parler, à communiquer avec les gens. J'avais une certaine violence en moi et beaucoup de tristesse et de déception également. Et donc, il est venu me voir et puis il m'a dit « Je te félicite pour ton match hier, ça devait pas être évident. » Et il m'a dit « Est-ce que tu sors ?» Et je lui ai répondu « Sortir en boîte de nuit ou dans les bars ?» Oui. Il me dit « Pas trop. » Je lui disais « Ma vie, elle est très simple. Je viens à l'entraînement, je me lève, je viens à l'entraînement, je rentre chez moi, je déjeune, je dors. » Quand il y a un deuxième entraînement, je reviens à l'entraînement. Après, je rentre chez moi, je mange, je dors.
Ah bah oui, c'est vrai que c'est triste.
C'est une vie monacale, mais vous ne pouvez pas vous permettre autrement. Lorsque vous voulez devenir sportif de haut niveau, il vous faut une discipline de fer. Ouais. Il faut presque rentrer.
Et là, Arsène Wenger vous dit, il faut que tu sortes.
Oui.
Alors,
je lui ai dit, je lui ai répondu ça. Je n'ai pas compris qu'un entraîneur m'incite à sortir, alors que c'est contraire justement au principe même du haut niveau. Il m'a dit, si tu veux te découvrir en tant que joueur, il faut que tu puisses te découvrir en tant qu'individu. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut...
Extérioriser,
exactement. Donc,
et vous dites que ça a changé votre vie, ce conseil?
Bah, après, je pense qu'il a certainement dû se dire, bon, maintenant, il va falloir que tu arrêtes un petit peu de sortir.
parce que
quand vous avez commencé à sortir, vous n'êtes plus arrêté. Non, plus
mais
arrêter.
Tout le monde se rappelle un petit peu de la trajectoire tragique de José Touré.
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
À cette époque-là, on jouait ensemble également à l'AS Monaco. Donc, j'avais un exemple aussi concret devant moi. C'était le futur grand joueur français.
Mais il y en a eu tellement.
Il avait une étiquette de Brésilien français. Il faisait rêver les gens à chaque fois qu'il jouait sur la pelouse. Et puis, il a eu une fin tragique. Donc, à cause des sorties, toutes ces dérives autour. Quoi.
Et donc, du coup, vous êtes mis à sortir, aller en boîte.
Oui. Tel un papillon, j'ai butiné sur toutes les fois qui se présentaient.
C'est ça, c'est ce que je disais, du butinage. C'est ce que je fais moi aussi, c'est tout pareil.
Toi, tu dis picorer.
Je butine aussi.
Le problème, c'est que de nos jours, il y a de moins en moins de fleurs.
Exactement.
Si, mais elles sont fanées.
Ouais. C'est pas qu'elles sont fanées, elles deviennent de plus en plus rebelles.
Elles ont des épines. Des épines
sous et compagnie.
Bien sûr, on peut plus butiner.
Vous pouvez plus rien faire aujourd'hui.
Non,
vous êtes épiés.
Exactement.
Non, mais on est biaisé, c'est les réseaux sociaux aussi.
Tout ce que vous parlez, tout ce que vous pouvez dire, les actes. Aujourd'hui, avec tous les téléphones.
Vous êtes filmé n'importe quand.
Mais il faut faire attention à tout. Vous êtes dans le public, vous ne savez pas comment agir maintenant.
On a la même vie, vous et moi, Emmanuel Petit, c'est vrai.
C'est vrai, moi, ça me fait flipper. Quoi.
Ouais.
Vous avez peur de vous retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça ?
Écoutez, je ne vais pas encore faire le rebelle ou quoi que ce soit, mais moi, les réseaux sociaux, j'en veux pas, j'en voudrais jamais. Voilà.
Attends, mais regarde Castaner, il va en boîte, il pécho une nana et c'est vrai qu'il est déjà dans la presse.
Hein. Ouais.
Alors, c'est pour ça que vous n'allez plus en boîte, Emmanuel Petit, à cause des.
Ouais, puis à 50 ans, on va plus en boîte à 50 ans.
Ah, bah, on
ah bah,
va
moi j'y vais.
On va dans d'autres boîtes, on va dans d'autres boîtes, mais pas celle-ci.
Eh ben, on en apprend des choses.
Dites à un moment, Emmanuel Petit, que ça vous a gêné de gagner autant d'argent ?
Oui, encore aujourd'hui.
Et vous en avez donné, du coup ?
Ah, j'en ai donné beaucoup, j'en donne toujours beaucoup aux gens. Ouais.
Vous avez une culpabilité de cet argent ? Vous trouviez que c'était trop ?
Je suis dans un milieu modeste, ça ne veut pas dire que je ne suis pas prédisposé à gagner de l'argent.
Mais vous en donnez même, alors vous en avez donné à votre famille, à vos amis, même à des gens, à des inconnus. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai un projet en Normandie. Ouais. On pourrait s'associer.
Bien sûr.
Mais des petits, non, c'est
mais des inconnus, c'est-à-dire des gens qui venaient vous voir pour.
Ouais, des gens que je croisais, des gens qui sont venus devant moi, désespérés, en train de pleurer. Et je sentais vraiment qu'il y a une sincérité, une histoire derrière. Tu sentais qu'il y avait, c'était presque une question de vie ou de mort, quoi.
Vous dites aussi, Emmanuel Petit, que vous êtes passionné par les vêtements.
Oui.
Et que quand vous voyez quelqu'un, vous savez si cette personne, ses vêtements lui conviennent.
Oui.
Alors nous, par exemple.
Moi, je trouve qu'on a tous, on cherche tous une identité.
Ouais.
Et je trouve que les tenues vestimentaires disent beaucoup sur la personnalité d'une personne.
Oh merde,
elle est en salopette aujourd'hui. Elle a 8 ans.
Moi, j'ai ressorti un vieux gilet parce que j'avais froid.
Bah justement, c'est marrant mais ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement ça. Anne Ronin, je ne vous connais pas,
ouais.
Mais vous avez gardé votre âme d'enfant, en fait.
Bien sûr.
Bah oui.
Enfin, de jeune fille.
Hein. Oui.
Et par exemple, Ben H.
Bon, le bobo.
Ouais, un petit peu, ouais, mais en même temps, un petit peu avec les cheveux, un petit peu en pagaille comme ça, c'est-à-dire que à la fois bobo, un petit peu classique, mais en même temps, il y a un petit côté rebelle, un petit côté hors cadre.
C'est tout,
hors cadre. Et Léa ? Oh bah là, bah vraiment, je me suis pas sapée
au réveil. Au réveil.
C'est classique, mais c'est une tenue de travail.
Exactement, ouais, et je l'enlève quand je rentre.
Et Jérémy Lorca ?
Tenue de boulot aussi, je suis très simple aujourd'hui.
Ouais, très simple, ouais. La sobriété. Voilà.
Ouais.
Vous êtes très looké en revanche.
Ouais, ouais. C'est magnifique.
Moi, je suis. C'est mon style.
Et moi,
c'est
quoi,
soit cuir ou soit.
Il y a le côté personnage de Game of Thrones, ça pourrait être entré.
Bah, moi, je suis un peu intemporel, ouais.
Laurent Barra tenait absolument à vous rencontrer. Emmanuel Petit, c'est un grand fan devant l'éternel.
D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'a pas parlé de sa tenue et vaut mieux pas. Hein.
De sa tenue ? Non, mais elle est bien, sa tenue.
Merci, Emmanuel.
Oh, genre, tu l'appelles par son prénom, tu le connais depuis 10 minutes.
Ben non, pas du tout, pas du tout. Parce que quand je serai plus grand, je voudrais être petit. Nous sommes en septembre 1990 et c'est avec ce trait d'humour bien involontaire qu'à l'âge de 11 ans, j'ai rempli la fiche de renseignement d'entrée au collège répondant à cette question censée situer le niveau de motivation d'un élève. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Et là, où d'autres répondirent vétérinaire, astronaute ou encore orthodontiste, ma réponse fut immédiate et sans rature. Quand je serai plus grand, je voudrais être petit. Les moqueurs, les esprits chagrins, souvent situés autour de cette table, diront que vu ma taille, on peut considérer que j'ai atteint une partie de mes objectifs.
C'est un rêve qui se réalise.
Et pourtant, Emmanuel Petit, vous ne me connaissez pas, mais vous êtes mon plus vieux copain d'enfance. Je ne compte pas le nombre d'heures de colle passées à recopier 200 fois. Il ne faut pas bousculer ses petits camarades dans le but de leur voler, racketter ou extorquer des vignettes Panini à l'image d'Emmanuel Petit. Je ne compte pas le nombre d'heures passées à ne plus pouvoir uriner tellement j'avais pleuré ce triste soir de défaite contre la Bulgarie. Je ne compte pas le nombre d'heures passées à uriner tellement j'avais bu après votre troisième but magnifique contre le Brésil. Période de recherche identitaire où je poussais la schizophrénie jusqu'à me délecter des biscuits apéritifs tuc dont vous vantiez les mérites à la télévision. Biscuits me rapprochant plus de la silhouette d'un petit gros que de celle d'Emmanuel Petit. Icône publicitaire, collectionneur de trophées, adulé par les femmes, détesté par les chauves. Cette catégorie d'hommes moins chanceuses que vous, Emmanuel, qui à partir de 30 ans prennent du Propecia. Ce médicament aux effets secondaires mal maîtrisés, dont la particularité amusante est de faire pousser autant la poitrine que les cheveux.
Vous me direz, il y a les implants, mais les implants, ça coûte cher. Et ça se voit, hein, quand tu passes en 48 heures de Pascal Obispo à Donald Trump. Ça attire l'œil, même des plus distraits. Emmanuel Petit, vous étiez un joueur différent. Amoureux du foot, beaucoup moins de ses coulisses, dans lesquelles les arbitres étaient parfois plus payés que les joueurs. Pas étonnant de vous retrouver quelques années plus tard dans la peau d'un romancier à la plume aussi adroite que votre pied gauche, avec ce premier tome au titre alléchant. Dernier tacle, meurtre à l'Olympique de Marseille. Ouais. Choix marketing beaucoup plus judicieux, je vous l'accorde, que si vous l'aviez appelé « J'ai perdu mes clés au FC Metz ». Et Aimé Jacquet, pourtant avare de compliments avec ses joueurs, vous glissez à l'oreille après la finale de 98. Tu as été le meilleur, mon Manu. Je ne doute pas que l'on dira la même chose de votre roman très prochainement. En tout cas, face à cette reconversion très réussie, le quarantenaire que je suis peut encore une fois dire « Quand je serai plus grand, je voudrais être petit ».
C'est gentil. Merci.
Ça a dû surprendre les gens que vous vous mettiez à écrire un polar.
Mais j'étais pas un dribbleur sur le terrain, mais j'aime bien prendre les gens à contre-pied dans ma vie.
Ouais.
Alors c'est vrai que, encore une fois, avant de me lancer dans ce projet-là, j'avais toujours à l'esprit, et je l'ai toujours d'ailleurs, même quand je suis allé au Salon du Livre, j'ai pas le sentiment d'être à ma place. J'ai même le sentiment des fois de peut-être déranger. Et vous savez comment ça se passe, hein. Dès que vous sortez un petit peu de votre univers, il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois, qui vous remettent en question, pour qui il se prend, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de faire abstraction, de passer outre, et de me dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais me faire défoncer. Donc de toute façon, ça fait très longtemps que je me fais défoncer. Donc,
qu'il faut aller au bout des choses. Hein.
Moi aussi.
Oui, mais toi, t'aimes ça.
Oh non.
Ok.
Oh c'est là,
on va laisser la chaise entre nous. Hein.
Alors, Emmanuel Petit, en 2005, vous avez mis fin à votre carrière de footballeur après plusieurs mois de galères et de blessures. Ouais. Finir une carrière de sportif à 35 ans, c'est pas mal quand même.
34 ans, c'était en 2004. J'ai arrêté ma carrière. J'ai eu une ostéotomie de la jambe droite. On m'a sectionné la jambe à deux endroits.
Et alors, vous êtes devenu après consultant, commenter le foot. Ça vous fait plaisir, ça, ou c'est...
Analyser le foot, ça me fait plaisir. Alors, vous savez, moi, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai été dans les droits télévisuels sportifs pendant 15 ans. J'étais actionnaire de différents groupes, en France et à l'étranger. Dans tout ce qui est l'industrie du football, en fait, j'étais un touche-à-tout. Je connaissais parfaitement les tenants et les aboutissants du terrain. On est vraiment.
Et là, toutes ces activités ont été des réussites, Emmanuel Petit, à chaque fois où vous avez gagné.
Sauf les droits télévisuels, où ça a été un énorme échec financier.
Pourquoi ?
Quand la FBI a fait sauter le verrou de la FIFA.
Ouais. Oui, mais vous avez pas
perdu. La FIFA a implosé.
Ouais.
Son président Sepp Blatter a été débarqué.
Ouais.
Et puis, il y a toutes les agences, justement, qui ont été les intermédiaires, les agences comme moi, je faisais partie, où on achetait les droits.
Vous les revendez
aux fédérations et on les revendait aux télédiffuseurs.
Mmh.
Et aujourd'hui, la FIFA comme l'UEFA essayent d'éradiquer toutes
ces agences,
les intermédiaires pour avoir encore plus d'argent.
Vous n'aimez pas tellement la FIFA, Emmanuel Petit.
Écoutez, quand on voyait encore un Infantino qui était l'ancien sbire de Michel Platini, qui aujourd'hui est le grand patron, le grand Manitou foot français alors qu'il est né, il a vécu dans le même patelin que Sepp Blatter. Excusez-moi, mais on se fout de la gueule de qui, quoi.
J'adore.
Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. On est à une époque où tout se sait en permanence et personne ne fait rien. Quand on voit ce qui se passe avec les politiques dans le monde entier...
Oui, c'est comme les grands lobbyistes.
C'est du grand foutage de gueule. Moi, je vous le dis, tel que je le pense. Non, j'aime pas la FIFA. Non, j'aime pas l'UEFA. Voilà, tout simplement.
Et voilà.
Bravo.
Bien
c'est dit.
Bravo.
C'est dit.
Et puis, il a pas l'air commode quand
il s'énerve. Non, j'ai pas l'air commode parce que là, on parle d'un sujet qui, pour moi, tient extrêmement à cœur. Et même si je sais que ces entités font un travail colossal et remarquable pour l'émancipation des individus à travers le monde, on est quand même 350 millions de licenciés de football dans le monde. À aucun moment, on demande à ces licenciés d'avoir un avis lors des élections. On est représenté par de l'entre-soi en permanence, par des petits gens qui ont accaparé le football, qui ont détourné justement l'essence même du foot. Et aujourd'hui, on ne pense qu'à faire du pognon. Moi, j'ai rien contre faire du pognon, mais faire du pognon pour faire que du pognon, il n'y a pas de logique derrière. Et moi, je trouve qu'au contraire, on devrait revenir à des choses qui sont fondamentales pour le bien-être de l'individu. Et on peut quand même faire du pognon, mais en étant justement très, très à l'écoute de ce qu'attendent les gens en permanence. Qu'est-ce que vous voulez ? On est là que pour faire du pognon et tout le monde faire sa gueule et il n'y a plus de rapports humains. On l'a déjà à travers les réseaux sociaux, on se déshumanise en permanence. Moi, je lance un appel, un SOS, mais réveillez-vous les gens, quoi. Réveillez-vous, arrêtez d'être sur vos réseaux sociaux. prenez le temps, allez voir les gens physiquement, prenez le temps d'aller prendre un café avec eux, de leur parler.
C'est
et tout.
Ce que je dis dans les sites de
c'est
rencontres.
Chiant. C'est chiant dans le métro. De voir à quel point on continue dans cette logique.
Exactement.
Où on se déshumanise en permanence. Est-ce que quelqu'un peut réveiller le monde, quoi ?
Bah vous ?
Non, moi non, j'ai pas cette prétention-là et c'est pas mon rôle. Mais ça me fatigue, les médias ne jouent plus le rôle.
C'est donc l'appel du 19 mars.
Ouais, voilà. Emmanuel Petit, je vous présente Léa Lando. Je ne sais pas si elle va vous réveiller.
Mais ça.
Léa Lando, je ne sais pas si elle a des choses à vous dire.
Oui. Bon, Emmanuel Petit, vous êtes surtout ici pour votre livre Dernier tacle, Meurtre à l'OM, une femme flic enquête. Déjà, c'est le titre le plus long du monde, quand même.
Oui.
Donc, c'est un polar. Donc, façon interrogatoire, moi, je vous ai préparé une interview droite au but.
Allez.
C'est parti. Pourquoi une femme flic ?
Parce que j'aimais bien le contraste, justement, dans le monde machiste, même si ça a beaucoup évolué pour les femmes, ouais, dans le monde du football, dans le bon sens du terme.
Avouez quand même que depuis votre livre qui mettait en page votre vision du foot, qui s'appelle déjà Franc-tireur, vous aviez, oui, déjà des envies de meurtre, en vrai.
Ouais.
Le titre.
Ouais, j'aime bien les titres un peu accrocheurs.
Alors, certains ex-joueurs de foot sont devenus comédiens, comme Cantona, Leboeuf, d'autres animateurs télé, comme Ginola.
Oui.
Vous, c'était un rêve d'être auteur ou ça vous est tombé dessus par hasard ?
L'écriture m'accompagne depuis ma plus tendre enfance.
Ouais.
Ça a été, à la base, j'avais pas de volonté justement d'écrire il y a très longtemps. C'était juste pour moi, justement, de trouver la possibilité de sortir tout ce que j'avais à l'intérieur, parce que je m'exprimais pas beaucoup.
Ouais.
Et l'écriture a été pour moi de raconter tout à la première personne. C'est un peu un journal intime d'une, comme une fille.
C'était votre confident, quoi, le papier.
Oui.
Vous avez quand même essayé la chanson. Hein. Vous faites le titre 3-0 avec Sophie Thalmann. Et ce duo vous a mené tous les deux partout, sauf vers une carrière musicale.
Oui.
En même temps, normal, on écoute. Vous n'avez jamais rêvé d'être chanteur, Emmanuel Petit ?
Non, mais Pascal Obispo, on avait enregistré Love for United à Londres il y a plus de 20 ans.
Ouais.
Il était venu me voir, il m'avait dit, mais t'es celui qui chante le plus juste de tous les joueurs.
Ah ouais ? Vous êtes un
Mais ça m'aurait bien plu de faire une carrière de chanteur, oui.
Ah, vous êtes un inconditionnel de Bob Marley ?
Bob Marley, musique classique, hard rock.
Vous nous faites pas un petit bout de Bob Marley ?
Ah ouais, ça serait cool.
Get up, stand up.
Get up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Ah, ben si, un beau temps. Alors là, comme ça, vous avez écrit un polar, quelle est votre série policière préférée entre Columbo, Les Experts, NCIS ou Navarro ?
Columbo.
Columbo.
Ah, Columbo.
Bah ouais, d'ailleurs, c'est ça.
Columbo, c'est incroyable, quoi. Vous découvrez à chaque fois l'assassin et derrière, vous avez tout le cheminement, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et j'adore sa personnalité, j'adore comment il est, quoi.
Merci beaucoup, Emmanuel
Merci
Petit.
Merci à vous.
Bonjour, Marc-Antoine Lebray. Vous connaissez bien cette maison. Vous avez été chroniqueur chez Jean-Marc Morandini,
oui,
chez Hanouna, chez Benjamin Petrovert.
Oui, bien sûr, ça fait déjà, je crois que j'ai commencé il y a 7 ans. Et j'étais en duo au départ avec Anaïs Petit, une imitatrice.
Ouais.
Et non, c'était cool, on s'est bien marré.
Et là, vous avez 33 ans.
Ouais.
Des jeunes.
Et vous êtes breton.
Ouais, je suis de Saint-Brieuc, juste
et
à côté de Saint-Brieuc.
À un moment, vous avez travaillé dans une station d'essence pendant plusieurs...
Pendant un an.
Ouais.
Simplement, j'ai directement fait des spectacles.
Vous en avez mis de côté ? Vous en avez mis de côté ? Parce
qu'aujourd'hui, les prix ont-ils vraiment augmenté ?
Vous étiez DJ, vous animiez des soirées, des mariages ?
Ouais, j'ai commencé comme DJ et ça me permettait de faire quelques sketchs pendant la soirée. C'était pour des événements privés, hein, des anniversaires, mariages, etc.
Et les gens écoutaient ou pas ? Non, parce que souvent dans les mariages, c'est compliqué.
Ouais. Franchement, ça allait. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, quoi. Il fallait vraiment leur dire, ah, écoutez, je vais
Votre
faire un
Votre première
sketch,
imitation, Marc-Antoine Lebray, c'était Sophie Favier ?
Oui, mais alors c'était, je m'en souviens très peu. Hein. On m'a dit vraiment, parce que je devais avoir 7 ans, 8 ans, donc j'ai pas trop de souvenirs. Mais en tout cas, on m'a dit, oui, effectivement, tu imitais Sophie Favier. Je faisais juste un accent. C'était vraiment...
Mais vous faites pas trop les femmes, en fait ?
Bien sûr, Ariel Dombal. Et aussi Brigitte Fontaine et Chantalette. Regardez, il y a Madame Fillon qui est là-bas. Bonjour.
Et alors, vous avez surtout, Marc-Antoine Lebray, au début, décidé d'imiter des gens que personne n'imitait pour vous démarquer. Donc, vous avez été un des premiers à imiter Cyril Hanouna et Cyril Lignac, par exemple.
Ouais, 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 une petite beauté. Tu peux me lancer sur Hanouna, je fais ce que je veux. Voilà, je suis en rasera total. Voilà.
Et ouais, c'est vrai qu'au départ, je voulais vraiment imiter des gens pas connus, disons, ouais, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce qu'au départ, Hanouna, je l'ai imité quand il était sur France 4, donc personne ne le connaissait. mais ça m'amusait parce que j'étais tombé dessus. Et il y avait aussi Lignac, effectivement.
Il y avait Laurent Deutsch aussi. Ah, Laurent Deutsch, ça fait longtemps que je le connais. Hein. C'est vrai que c'est une voix qui est marrante parce que à chaque fois qu'il dit un truc, t'as l'impression qu'il va partir d'un coup comme ça.
Il paraît que Cyril Lignac vous remercie de l'avoir imité. Ça a contribué à sa notoriété.
Ouais, il me doit tout, c'est vrai.
Est-ce qu'il vous a donné des gâteaux du coup? On vous invite dans ses restaurants.
Non, il m'a invité dans son resto une fois, mais j'ai pas pu venir.
Non. C'est vrai.
Bah oui, voilà. Et en revanche, les autres des Guignols, ils ont été. Voilà. Mais, non. Mais c'est vrai qu'au départ, son gourmand gros gang. On l'avait fait à la radio au départ, et puis ensuite les Guignols l'ont repris, et c'est vrai que ça a été un gimmick après. D'ailleurs, il a appelé son restaurant, enfin, ou sa chaîne Gourmand Croquant.
Grâce à vous.
Ah. Ouais, c'est vrai.
Marc-Antoine Lebret, c'est dur de faire sa place parmi tous ces imitateurs?
Dur, encore une fois, il faut se diversifier et surtout imiter de nouveaux personnages.
Marc-Antoine Lebret, c'est important pour vous d'être breton?
Ouais, bien sûr.
Vous vous retournez souvent en Bretagne, je crois.
Souvent, j'essaye d'y aller de plus en plus, mais c'est pas facile parfois avec la tournée, tout ça. Mais en tout cas, oui, j'ai tous mes amis, toute ma famille. Et c'est cool, ça fait du bien d'aller boire de l'alcool. Yeah. Oh.
D'ailleurs, une fois, il y avait un couple sous dans votre spectacle, c'était des Bretons ou pas?
Non, c'était pas des Bretons, j'espère pas. Mais effectivement, oui, il y a eu deux personnes qui étaient très alcoolisées. Et c'était un peu gênant parce qu'ils intervenaient toujours et c'est compliqué. Parce qu'une fois on vanne, une fois, deux fois, Anne, j'imagine, vous, c'est pareil. Hein.
Ouais. Mais personne ne boit quand il me voit.
Moi, je joue dans les PMU aussi, donc c'est compliqué. Mais non, mais du coup, au bout de la troisième fois, il n'y a plus de vanne et puis surtout, ils n'ont plus de filtre. Et la spectatrice s'est levée en plein spectacle, elle a mis sa clope sur la bouche, donc tout le monde la regardait. Elle dit « Je me casse !» Et elle est partie. Un peu gênant.
Et donc ça fait du bien d'avoir ses parents dans la salle.
Vraiment.
Marc-Antoine Lebret, c'est un nouveau spectacle à l'Alhambra à partir du 17 janvier?
Ouais, nouveau spectacle.
Tout nouveau spectacle?
Ah oui, bien sûr, ouais.
Une heure et demie de nouveau spectacle.
Voilà, une heure et quart.
Comment on fait parce que vous le rodez pas en fait, vous allez direct?
Si, je le rode. Là, je commence déjà à le roder. Ça fait un petit moment que je le rode. Mais donc petit à petit, voilà, chaque sketch. Donc il y aura des sketchs différents sur le féminisme avec.
Avec Lazo, tout à l'heure, attendez, avec Chantal Lazo.
Avec Roselyne Bachelot aussi, voyez qu'il y en a des femmes finalement.
Et puis on parle aussi de l'alimentation.
Avec Michel
Simès, effectivement, le magazine de la santé. D'ailleurs, il faut savoir qu'on a retrouvé des traces d'opiacés de type héroïne dans des fruits de mer. La dernière fois qu'on avait retrouvé autant d'opiacés dans une moule, c'était dans un frottis d'Amy Winehouse.
Oh non. Voilà.
Ça, c'est quelques extraits du spectacle.
Marc-Antoine Lebret, vous devez beaucoup travailler quand vous choisissez une nouvelle voix?
Ouais, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup la radio, je regarde des vidéos sur YouTube, des interviews, etc. Et j'essaye de retrouver une intonation, juste une phrase parfois. Et après, j'y réécoute plusieurs fois ce passage. Ça peut être une seconde, deux secondes. Et parfois, j'y arrive pas aussi. Hein, et puis parfois, ça me vient longtemps après.
Et ce sont des gens que vous aimez bien, qui vous énervent, que vous imitez ou...
Des gens dans l'actu surtout, qui nous permettent de faire des blagues. Il faut que ce soit des gens intéressants surtout. Qui
Mélenchon,
puissent...
vous le faites?
Mélenchon, je le fais un peu. Je suis la République, madame, vous voyez.
Mais j'essaie toujours, oui, effectivement, de choper des petites phrases, des gimmicks. Et j'essaie parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive pas. Par exemple, je me souviens de Nagui, j'arrivais pas à trouver une intonation. Et un de mes auteurs, Grégoire Day, qui travaille avec moi, m'avait dit il a un peu un phrasé de Raymond Domenech.
Raymond Domenech qui a une voix un petit peu cassée, hein. Non, on a fait un bon match.
Et du coup, j'ai essayé d'accélérer un peu le Raymond Domenech pour en faire finalement Nagui et ses taratata tcha tcha tcha.